Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Alors, bien comme chaque année, nous sommes au Domaine d'eau, accompagné de Jérôme Pilmont. Bonjour Jérôme Pilmont.
Bonjour.
Alors, comme d'habitude, j'ai envie de dire les folies lyriques qui nous proposent des folies d'eau. Alors, cette année, il n'y a pas de spectacle. On va tout de suite rentrer dans le point délicat. Ce sont deux spectacles invités. Il n'y a pas de production des folies d'eau comme d'autres années.
Alors oui, effectivement. Alors en 2013, on avait quand même accueilli West Side Story, qui était aussi une production qui tournait dans le monde entier. C'est-à-dire que il y a des années, voilà, où on aime bien nous créer avec collaboration avec l'Orchestre National, créer des spectacles autour de ce répertoire qui est parti par l'opérette, qui va vers la comédie musicale. L'année dernière, on était faire un petit tour en Amérique latine.
Oui, avec une production maison, avec Volver.
Oui, voilà, une production maison. Mais voilà, puis c'est bien aussi de temps en temps de faire découvrir d'autres choses. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, les temps sont à diversifier les publics, à diversifier les choix artistiques. Si vous regardez aujourd'hui l'ensemble des festivals en France, en particulier qui partaient au départ de festivals de lyrique, hein, on est quand même au départ, c'est un peu notre ADN, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va un petit peu explorer des nouvelles pistes, on reste pas dans nos traditions, et moi ça me va très bien parce que musicalement je suis un peu touche à tout, donc c'est vrai que j'ai profité des années Covid pour développer un peu la comédie musicale américaine, et puis on va rester avec deux spectacles très différents. On va rester au 20e siècle avec Black Legend qui raconte un peu l'histoire de la naissance de la musique afro-américaine et de toute la culture afro-américaine aux États-Unis, qui va se développer évidemment musicalement à partir du XXe siècle, mais qui existe dans les shows de coton depuis le XVIIIe ou le XIXe, où les gens chantent. Et cette culture afro-américaine va se développer, alors pas simplement avec le jazz, justement, avec plein d'autres genres musicaux, et on balaye ça un petit peu. C'est une comédie musicale qui raconte l'évolution, finalement, des Afro-Américains, de leur musique, au XXe siècle, et j'allais dire au XXIe siècle, parce qu'on va jusqu'à Beyoncé, et voilà, on va exploiter un petit peu tout ce qui est devenu cette musique, avec les points d'or qu'ont été certains artistes. Alors, je ne veux pas tous les citer, il y a Tina Turner, Whitney Houston, mais Ray Charles, Beyoncé, Michael Jackson, etc., qui est devenu une star planétaire à la fin des années 70, début des années 80. Donc voilà, mais l'ADN est sauf, je dirais, pour les folies d'eau, puisque c'est un spectacle où ils chantent, ils dansent, ils jouent eux-mêmes. Donc c'est vraiment, c'est leur répertoire, il n'y a pas d'orchestre symphonique pour les accompagner, mais ils sont tous musiciens et ils sont quand même très nombreux sur scène où ils dansent, ils jouent. Et voilà, ils vont nous faire découvrir un petit peu. Puis c'est un discours, comme toujours, je dis dans la comédie musicale, il y a la part de légèreté, il y a la part de rythme, de danse, de sourire, puis il y a une vraie part politique, de la position, des Noirs américains à la fin du 19e et de toute l'évolution des Afro-Américains pendant le 20e siècle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de mettre les points sur les i et de raconter cette histoire, ce racisme qui a vécu, qui a gangréné le XXe siècle aux États-Unis, qui aujourd'hui va un petit peu mieux, quand même. Aujourd'hui, on peut quand même traverser. Moi, je me souviens, jeune étudiant, je pouvais pas aller dans Harlem. Mmh. Je me souviens, et c'est pas il y a 2000 ans, je suis pas très jeune, mais dans les années 80, à partir de Central Park West, les taxis vous déposaient en disant, le soir, vous ne rentrez pas dans Harlem parce que vous êtes blanc. Et on allait dans le Bronx en faisant attention. Maintenant, aujourd'hui, ça y est, les choses évoluent petit à petit, et c'est bien de faire découvrir ça au public en musique.
Oui. Alors, et puis, vous évoquiez tout à l'heure West Side Story. J'ai envie de dire, c'est une vieille tradition d'avoir ce mélange des styles, parce que West Side Story est compositeur.
Leonard
Bernstein, c'est la musique classique, mais pas que.
Non, c'est
il joue du métissage de toutes ces musiques. Et puis, bah, alors, la thématique était hautement sociale. Je ne sais pas si elle sera encore d'actualité.
Ça tourne. Vous savez, les West Side Story est un des rares spectacles de comédie musicale en France. Je parle en France parce que ça tourne dans le monde entier, mais qui fait le plein systématiquement. C'est-à-dire, vous savez, on disait toujours, dans le milieu de l'opéra, pour faire le plein, il faut faire Carmen, la Traviata, Faust. Enfin, on n'a pas le choix pour être sûr de remplir un théâtre, un opéra. On n'a pas 15 œuvres. Il y a vraiment un top 10 et peut-être même un top 5. Et dans la comédie musicale américaine, sur toute l'histoire de la comédie musicale à Broadway, je pense que West Side est la comédie musicale qui marche vraiment systématiquement. C'est Roméo et Juliette, c'est les Portoricains contre les bons blancs hollandais, voilà, c'était les Jets contre les Sharks. Alors qu'au départ, c'est assez marrant parce qu'au départ, c'était avant-guerre, parce que Bernstein y avait pensé, il y a eu des émeutes antisémites à Los Angeles, donc ça c'était avant la guerre, hein, et il voulait faire quelque chose justement entre les protestants, contre les bandes protestantes et les bandes juives. Donc voilà, il y a toujours, malheureusement, on le vit encore aujourd'hui, sans arrêt, les communautarismes, les excès de communautarisme, et qui font les guerres. Simplement, les guerres, les révolutions. Et West Side Story est une comédie musicale qui n'est pas drôle et qui est d'ailleurs la première comédie musicale où il y a quand même, à la fin, on sort de la salle, il y a trois morts quand même. Hein. Donc, c'était pas dans l'habitude. Donc, voilà, derrière la comédie musicale, il y a toujours un petit discours politique.
Alors, je parlais aussi de ce mélange des genres, hein, ce métissage des genres qui est... J'ai envie de dire qu'une banalité, hein, sur le continent américain, hein, les compositeurs peuvent circuler d'un genre à l'autre. C'est peut-être moins évident en Europe et en France, encore que ça évolue. Est-ce que vous avez le sentiment que ce métissage musical, aussi bien du côté des créateurs que du public, il est acquis maintenant?
Franchement, les choses ont évolué, parce que la variété, il y a... Alors, si on prend l'histoire, la période de la comédie musicale est née un peu de l'opérette et des chansonniers en France. Et c'est pour ça qu'on est toujours, je dis toujours, on est un petit peu en retard, nous les Français, on est moins, par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais, par rapport aux Anglo-Saxons, on est moins au fait de la comédie musicale. Je veux dire qu'on voit les grandes comédies musicales, Cats, Evita, Jésus-Christ Superstar, etc. Commence à y fonctionner à Paris. Maintenant, il y a un, deux théâtres qui systématiquement produisent des comédies musicales, alors qu'il y en a 140 à New York. Mais ça vient petit à petit. Et puis, je pense que le métissage en musique, je veux dire, depuis Charles Trenet, il y a eu quand même beaucoup de gens, et je pense qu'on a été une terre d'accueil, je veux dire. Aznavour venait et a quand même aussi défendu ses origines. Voilà, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui viennent, qui racontent leur histoire, qui racontent leur intégration. On est tous des enfants d'émigrés, hein, donc ça y est, je veux dire, aujourd'hui, en France, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, ce qui est très, très important, c'est la variété des genres. Moi, que ce soit en musique classique, en comédie musicale, en opérette, moi, j'adore mélanger les genres. Moi, ça m'amuse d'aller à un concert et d'entendre une chanson de Gainsbourg après avoir écouté la troisième de Brahms, ou d'écouter le deuxième concerto, l'adagio du deuxième concerto de Rachmaninoff, qui a été repris en chanson, etc. Donc, cette mixité, elle existe depuis toujours. Elle a toujours existé. C'est voilà. Ah, on entend une musique d'ailleurs, mais ça, c'est des réglages dans l'amphithéâtre. Mais voilà, donc là, encore une fois, pour ça, on voit toute l'évolution de cette musique américaine qui passe par le disco, le funk, le hip-hop, le R&B, le jazz, le gospel aussi, qui est une origine plus religieuse, etc. Donc on va présenter un petit peu tout ce qui a balayé le XXe siècle avec ce magnifique spectacle.
Voilà. Et puis, les frontières sont franchies, je ne sais plus qui disait, le jazz et la musique classique de l'Amérique.
Oui, alors, le jazz et la musique classique, mais ce qu'il y a de merveilleux avec le jazz, c'est que les compositeurs américains, savants, j'allais dire blancs, hein, contre les jazzmen qui étaient plutôt d'origine afro-américaine, et tout le monde a eu l'intelligence de faire ensemble. Je pense à Gershwin, je pense à, on parlait de Bernstein, mais je pense aussi à Gershwin, qui a tout de suite...
C'est Cole Porter, j'ai eu un spectacle concert à Cole Porter.
Bien sûr, aussi, Cole Porter qui est venu en France et qui, voilà, qui, on parlait de mixité, Cole Porter est venu s'installer en France à une époque. Il y a eu, je pense, alors, nous en France, on n'a vraiment pas de leçon à recevoir, parce qu'on a vraiment été une terre d'accueil formidable pour les artistes, de tous horizons, mais aux États-Unis aussi, les choses ont évolué, ont bien évolué, et je pense continueront toujours à évoluer, je l'espère.
Espérons-le. Alors, donc un premier spectacle américain, on va dire, hein, Black Legend, beaucoup de monde sur scène, hein, là
Oui, ils sont une quarantaine, ils sont une... Ils sont nombreux. Ça donne une idée. C'est des danseurs, c'est des musiciens, c'est des chanteurs, et moi j'ai été très touché par... D'abord, il y a deux choses, j'ai été touché par les couleurs des voix. Il y a des voix absolument magnifiques. Alors... Jérôme Pilement, il aime les voix. Il aime les voix dans l'opéra, mais il aime les voix dans la comédie musicale. Il aime les voix. Voilà. Moi, j'aime la voix. Si la chanteuse est formidable, moi, j'ai eu la chance d'ailleurs d'accompagner aussi beaucoup d'artistes de jazz ou de variété même française ou étrangère. Et de temps en temps, on a des plaisirs énormes. Moi, accompagner Tina Arena, j'ai accompagné Gloria Gaynor, j'ai accompagné des gens comme ça avec orchestre. Mais c'est des moments magiques parce que c'est des voix merveilleuses, même si ce n'est pas, j'allais dire, mon répertoire. Et je pense que c'est toujours intéressant, encore une fois, d'aller dans d'autres répertoires. Donc là, ils chantent vraiment, il y a des voix absolument magnifiques, ils dansent. Mais ça, c'est évident, parce que la comédie musicale comme ça, ces gens-là dansent, c'est un vrai... Moi, j'appelle ça un spectacle un peu cardio, quoi. Parce que je peux vous dire que quand ils sortent de scène, ils ont soif.
J'imagine, oui. Bon, puis comédie musicale, c'est pas simple. Chanter, danser, jouer, et tout
jouer,
en même temps.
Oui, et puis raconter, et raconter une histoire. Ça, j'y tiens. Vous savez, le producteur de ce spectacle est Montpellier, hein, Cocorico. Frédéric Brisson est un Montpellierien. C'est lui qui a monté ce spectacle en tant que producteur et qui tourne maintenant depuis plusieurs années. Et il l'a fait évoluer, évidemment, comme tous ces spectacles évoluent régulièrement. Et voilà, il y a tous les ingrédients. Il y a les ingrédients Folido. Voilà, même si c'est pas notre répertoire habituel là, qu'on transgresse un petit peu, mais il y a tous les ingrédients de qualité vocale, de musique et puis d'énergie, parce que, comme vous le savez, nous sommes un festival assez énergique.
En général, oui.